Afrique, les infos à Washington.
John Lydon, bonsoir, bienvenue à tous. La nation burkinabé rend hommage à ses martyrs tombés lors du putsch du 16 décembre dernier et de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a balayé le régime du président Blaise Compaoré. Cette journée du souvenir commémorée ces 30 et 31 octobre a été marquée aujourd'hui par une minute de silence sur l'ensemble du territoire et d'une cérémonie sobre des dépôts de gerbes de fleurs à la mémoire des martyrs par les autorités de la transition. Plus de détails avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
En ce vendredi 30 octobre, premier anniversaire des débuts de l'insurrection populaire, les Burkinabés se sont rendus massivement au cimetière de Gounguin, où reposent les martyrs, pour le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes de ces valeureux filles et fils de la nation, a dit Chérif Sy, le président du CNT, Conseil national de la transition, à valeur d'Assemblée nationale. Juste après, la sirène a retenti et tout le Faso s'est arrêté pour observer une minute de silence en hommage aux martyrs. Pour marquer sa reconnaissance à leur endroit, le gouvernement a adopté une dizaine de décrets portant sur la prise en charge, l'éducation, l'emploi, le logement pour les orphelins, les veuves et veufs de ceux-là qui ont payé le prix fort pour que le Burkina Faso soit libéré du régime de Blaise Compaoré. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Cour d'appel du Nigeria a rejeté ce vendredi la demande du président du Sénat accusé de fausse déclaration de patrimoine pour que soit mis fin à son procès. Les juges ont rejeté l'appel de Bukolo Saraki qui assurait que le tribunal du code de conduite du pays, cour spéciale chargée de juger les dossiers de fausse déclaration de patrimoine et de revenus, n'était pas correctement constitué et n'avait pas la compétence pour le juger. La justice et la sécurité étant des branches très importantes pour la sécurité d'une nation, vu que l'insécurité a pris le dessus en Centrafrique, le poste de ministre de la Défense a été ainsi remis à l'ex-ministre de la Sécurité publique, Dominique Saïd Benguidji, afin d'aboutir à toute fin utile. Les explications du ministre de la Justice, Dominique Saïd Benguidji, joint par Pascaline Magali.
Alors, la justice est l'un des piliers de la feuille de route recadrée du gouvernement. La justice avec la sécurité passe parmi les priorités du moment pour créer l'environnement favorable donc à la tenue des élections. Donc c'est une place de choix dans la politique définie par le Premier ministre sous l'impulsion de la chef de l'État de la transition.
Vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avez-vous une stratégie à mettre en place afin de réinstaurer la justice sur toute l'étendue du territoire ?
Effectivement, pour restaurer la justice, il faut réactiver la chaîne pénale, étant entendu que pendant les événements, les unités de police étaient pillées, saccagées. Il faut remettre ces unités en place, redéployer les magistrats et engager des actions vigoureuses en vue de rechercher les auteurs présumés d'actes de violence et exactions et tout ce qui est violation massive de droits de l'homme et les présenter à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Voilà un peu les axes d'effort que le gouvernement entend développer pour justement restaurer l'autorité de l'État, lutter contre l'impunité.
Dominique Saïd Benguidji, ministre de la Justice. L'opposition congolaise a annoncé aujourd'hui à Brazzaville l'annulation des marches auxquelles elle avait appelé dans tout le pays pour contester les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Jean-Roger Billon.
Il n'y aura pas de marche. La journée d'aujourd'hui est consacrée au recueillement, a déclaré à l'AFP Paul-Marie Mpoulé, coordonnateur du FROCAD, l'une des deux coalitions d'opposition ayant appelé mercredi le peuple congolais épris de liberté à descendre dans la rue ce vendredi. Vers midi, environ 300 personnes participaient à Brazzaville au siège de l'Union parafricaine pour la démocratie sociale à un hommage aux victimes des violences survenues le 20 octobre pendant la campagne référendaire. Une vingtaine de morts selon l'opposition. Formation de l'ancien président Pascal Lissouba, chassé par les armes en 1997 par M. Sassou Nguesso, l'UPADS est le premier parti de l'opposition au Parlement et l'un des piliers du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD. En dehors de cette cérémonie de recueillement, il n'y a pas d'autre cérémonie ou marche dans le pays, a déclaré M. Mpwele. À Pointe-Noire, capitale économique du pays dans le sud, des responsables de l'opposition ont indiqué, sans plus de commentaires à l'AFP, que la tenue d'une marche de contestation dans cette ville avait été jugée inopportune. Les autorités ont annoncé mardi que le projet de constitution permettant à M. Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016 avait été adopté à 92,26% à l'issue du référendum de dimanche, marqué officiellement par un taux de participation de 72,44%. L'IDC et le FROCAD, qui avaient appelé à boycotter le scrutin, ont rejeté ces chiffres. M. Sassou Nguesso cumule plus de 31 ans de pouvoir à la tête du Congo.
Au Rwanda, le président Paul Kagame pourrait théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2034 si le Sénat suit l'exemple de la Chambre des députés qui a amendé hier la Constitution nationale pour ouvrir cette possibilité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Mauritanien Ahmed Ould Abdelaziz, ramené mercredi dans son pays après 13 ans de détention dans la prison américaine de Guantanamo, a fait sa première apparition publique à Nouakchott, affirmant qu'il espère désormais mener une vie paisible chez lui. D'après une fiche classée secret défense mais révélée par Wikileaks, Ahmed Ould Abdelaziz, 45 ans, avait prêté allégeance à Osama Ben Laden en 1999 et combattu en Afghanistan dans les rangs d'Al-Qaïda. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud a appelé aujourd'hui à la libération immédiate de ses 12 contractuels enlevés par des rebelles et souligné que leur capture pouvait constituer un crime de guerre. J'insiste sur le fait que la prise en otage de personnel équivaut à une attaque contre l'ONU, a déclaré Margaret Lodge. Une centaine de rebelles lourdement armés ont enlevé lundi 30 membres de la mission onusienne, alors qu'une guerre civile oppose depuis près de 2 ans le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir à une rébellion dirigée par l'ex-vice-président Riek Machar. 18 casques bleus originaires du Bangladesh ont ensuite été libérés, mais 12 contractuels sud-soudanais sont encore aux mains des rebelles. Le rapt s'est déroulé sur le Nil, au nord de la ville de Malakal, visant une barque transportant du carburant pour des casques bleus. Crise syrienne, 40 morts vendredi matin dans des bombardements à Douma, une banlieue de Damas tenue par la rébellion. Ce matin marque aussi le commencement des pourparlers à Vienne de règlement politique du conflit. Les infos avec Isha Sarai.
Les États-Unis et leurs alliés ont entamé dans la capitale autrichienne des discussions avec les alliés de la Syrie en vue de résoudre le conflit syrien. Pour la première fois, l'Iran est invité à discuter de cette crise qui a fait plus de 250 000 morts en 4 ans. La présence de l'Iran est significative. Soutien clé de Damas, Téhéran n'était pas aux précédentes pourparlers sur la Syrie à Genève à la demande des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dit que cette conférence est l'occasion la plus prometteuse de ces dernières années de parvenir à une solution politique. Mais le chemin vers une solution négociée risque d'être long à cause des positions éloignées des différents protagonistes. La question centrale porte sur la mise en place d'un processus de transition politique et la formation d'un gouvernement représentatif de toute la Syrie, à l'exclusion des groupes islamistes radicaux. La Turquie et l'Arabie saoudite veulent le départ le plus tôt possible de Bachar al-Assad, alors que la Russie et l'Iran insistent sur au moins des élections.
Le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a démenti vendredi tout arrangement pour l'obtention de l'Organisation du Mondial de football 2018 après les accusations du président démissionnaire de la FIFA, Joseph Blatter, dans le Financial Times. Dans une interview au quotidien Financial Times de vendredi, Joseph Blatter affirme que les Coupes du Monde 2018 et 2022 devaient initialement être attribuées à la Russie et aux États-Unis et non au Qatar. Vitaly Mutko était déjà ministre des Sports dans le gouvernement russe à l'époque où la Russie a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2018. Il est blessé au moins jusqu'à mi-novembre et doit avant tout récupérer à 100% et ne pas tenir compte de la perspective du Classico. Le Real de Madrid FC Barcelone, programmé le 21 novembre novembre prochain. On parle bien là de Lionel Messi. C'est ce qu'a estimé vendredi l'entraîneur barcelonais Luis Enrique. Au sein de l'équipe, on envisage d'abord que Léo Messi récupère à 100%. C'est la chose qui préoccupe tout le monde. Fin de ce bulletin d'information présenté par John Lyndon depuis Washington. Au plaisir de vous retrouver dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.